Le médecin des pauvres, deuxième partie, chapitre 5. Le château de l'aigle. Avant d'introduire nos lecteurs dans ce château de l'aigle dont il a été si souvent question déjà depuis le commencement de ce livre, il nous faut entrer dans quelques détails topographiques complètement indispensable pour l'intelligence de ce qui va suivre. La haute montagne qui commande la vallée d'Ilet est le commencement de cette chaîne que l'on appelle le second plateau du Jura. Elle se sépare en deux parties entre le lac d'Ilet et le Saut Girard, qui est l'une des cascades du Hérisson, et forme un escarpement considérable surmonté d'une série de mamelons traversés par la route de Morez à Lons-le-Saunier. Au commencement du XIVe siècle, Jean de Chalon, dans le double but de protéger la chartreuse de Bonlieu et de défendre le passage, véritable Thermopyle du Jura, fit construire le château de l'Aigle sur la partie des mamelons qui se trouve à gauche de la route. Un rapide talus de sable et de petits cailloux monte depuis le fond de la vallée jusqu'au pied de la roche qui s'élance droite et unie comme une gigantesque muraille. À gauche et en avant de la ligne courbe et régulière formée par les mamelons, s'élève une pointe de rocher extrêmement aiguë et d'une prodigieuse hauteur qui semble avoir été placée là par la main de quelques cyclopes, tant elle est nettement séparée de la masse principale. C'est sur cette pointe ou aiguille qu'était bâtie jadis la principale tour que pour cette raison on nommait la tour de l'aiguille. La pensée humaine reste confondue quand on réfléchit à l'incroyable audace de celui qui, le premier, conçut le projet de bâtir une forteresse sur ce rocher presque inaccessible. Jean de Chalon rêvait une position imprenable. Son rêve se réalisa. La citadelle surgit dans la nue. Quand l'œuvre fut achevée, il la baptisa du nom de Château de l'Aigle. Et c'était un nom bien trouvé, car l'homme venait de détrôner l'aigle, jusqu'alors unique monarque de ces formidables cimes. Le château n'occupait pas entièrement le vaste plateau qui couronnait la montagne, mais une forte enceinte de murailles enfermait ce plateau. Avant d'arriver au cœur de la place, il fallait franchir deux ponts-levis successifs et passer sous deux voûtes défendues par des herses. L'entrée principale, munie d'un premier pont-levis, était située du côté du village de la Chaux de Dombief. Une seconde porte et un deuxième pont donnaient accès sur l'esplanade, au milieu de laquelle s'élevait le château proprement dit. Splendide édifice, d'une terrasse plantée de grands arbres mettait en communication avec la tour de l'aiguille. À gauche de l'esplanade et du côté de la route se trouvait un vaste bâtiment où logeaient les hommes d'armes. À droite et dominant le chemin de ronde, un autre bâtiment, destiné aux écuyers, aux pages et aux valets. Tous les manoirs féodaux, dont les ruines subsistent encore aujourd'hui dans le comté de Bourgogne, offrent la preuve que la principale tour des châteaux était de forme carrée. Unique exception peut-être, la tour de l'aiguille était ronde. Sans doute d'ailleurs doit-on attribuer cette particularité à la forme du rocher sur laquelle elle était bâtie. Cette tour, fort élevée, ne contenait qu'une chambre à chaque étage. On montait d'un étage à l'autre par un escalier pratiqué dans l'épaisseur de la muraille. Une plateforme crénelée et sur laquelle flottait la bannière seigneuriale formait le sommet de la tour, et depuis cette plateforme, la vue plongeait d'une hauteur de 1500 pieds au moins, bien au-delà des vallées du Hérisson. Sur le dernier des mamelons de la petite chaîne dont nous avons parlé, et à droite de la tour, se trouvait l'habitation réservée jadis aux femmes des seigneurs de l'Aigle et à leurs enfants. Les fenêtres de ce bâtiment donnaient sur la vallée. Antide de Montaigu, n'ayant jamais été marié, le logis des femmes, complètement abandonné, se dégradait d'une façon rapide. On y parvenait en suivant un prolongement de la terrasse coupé en deux par une grille qu'on pouvait fermer, mais qui restait habituellement ouverte. Un escalier, également muni d'une lourde grille dans sa partie supérieure, conduisait à une cour située entre le logis des femmes et le mur d'enceinte. On la nommait la cour de la citerne, parce qu'à son point central se trouvait une immense citerne, creusée par la main de l'homme dans le roc et qui recevait et conservait les eaux pluviales. Une porte étroite, à demi pourrie et presque condamnée, mettait le bâtiment des femmes en communication avec cette cour qui se trouvait au niveau des cuisines, des greniers à blé, des magasins à fourrage, de tous les endroits en un mot où venaient s'entasser les redevances. Les domestiques, au moyen d'un passage voûté qui conduisait des cuisines et des écuries à la cour, pouvaient venir puiser l'eau de la citerne pour tous les besoins du château. Les partisans montagnards, les hommes des corps francs, enfin tous les gens d'épée qui défendaient les armes à la main, la liberté franc-comtoise, mettaient très haut dans leur esprit Antide de Montaigu, seigneur de l'Aigle. Cela s'explique. Nous avons entendu l'accusant adressée à Raoul de Champdivers ces paroles qui peuvent résumer l'opinion des populations militaires à l'endroit du fier gentilhomme. Aujourd'hui, Antide de Montaigu est un des plus puissants et des plus ardents défenseurs de nos libertés, avait dit le capitaine. C'est parmi ses vassaux que se recrutent nos corps francs. C'est lui qui nourrit et protège la mère, la sœur ou la fille du paysan soldat. C'est au château de l'Aigle, enfin, que se trouve le centre des opérations de toute la haute montagne. Et en effet, Antide de Montaigu faisait tout cela. Mais les populations agricoles ne pouvaient partager à son égard cette manière de voir, car c'était à leur détriment que le riche seigneur témoignait son dévouement à la cause nationale. Oui, il fournissait des vivres et des armes aux partisans du capitaine Lacuzon. Oui, il prenait sur ses domaines et parmi ses vassaux des hommes qu'il enlevait à la charrue pour en faire des soldats. Oui, sa sollicitude pourvoyait aux besoins des filles et des femmes de ses guerriers improvisés. Oui, il prouvait de mille manières qu'il serait fidèle au serment fait à l'Espagne, ou plutôt au pays, de se défendre jusqu'à la mort contre les entreprises de la France. Mais en même temps, il avait augmenté dans toute l'étendue de ses immenses domaines le chiffre des taxes, la longueur des corvées, le poids et la mesure des redevances que les tenanciers avaient à lui fournir en nature. De nouveaux impôts, de nouvelles dîmes s'ajoutaient chaque jour aux dîmes et aux impôts déjà si lourds. Les intendants parcouraient le pays et fouillaient les chaumières pour s'assurer qu'on ne faisait pas tort au maître d'une heure de travail. Les ravages même de la guerre n'étaient point acceptés comme cause légitime d'impuissance ou de retard. Les exigences semblaient croître en même temps que les difficultés. Ce n'était point que l'enthousiasme manquât aux vassaux du seigneur de l'Aigle pour la sainte cause de la province. Ils auraient donné de grand cœur à la Franche-Comté leur dernier homme et leur dernier écu. Mais ils auraient voulu acquitter librement cette redevance de sang et d'or. Et forcés de courber la tête, ils se révoltaient dans leur fort intérieur contre l'odieuse tyrannie des exigences brutales et sans cesse renaissantes du suzerain. C'était toujours avec une sorte d'indignation sourde et contenue qu'ils entendaient associer le nom d'Antide de Montaigu au nom vénéré et chéri de Lacuzon, de Marquis et de Varose, les héros, les libérateurs. Peu à peu, les souffrances physiques conduisirent aux divagations morales. On fit planer autour du château de l'Aigle une étrange atmosphère de mystère et de terreur. Antide de Montaigu prit sa place dans des récits aux allures de légende. Pour les montagnards épris du merveilleux, le terrible gentilhomme devint un personnage presque fantastique, et ce n'était plus sans effroi qu'aux veillées des villages on prononçait son nom redouté. Ces étranges rumeurs, ces bizarres récits, reposait-il sur un fondement quelconque? Sans doute, nous le saurons plus tard. Laissons le colonel Varose, le curé Marquis et Raoul de Champdivers faire des vœux pour l'heureux résultat de la tentative hardie de l'accusant. Laissons Maggie la sorcière dormir ou feindre le sommeil sous la garde vigilante de deux montagnards. Laissons Garbas courir à la rencontre de son père. Laissons le capitaine attendre auprès du sceau Girard l'arrivée du père de Garbas. Laissons enfin tous nos personnages hâter de toute la force de leur vouloir les événements près de s'accomplir, et transportons-nous au sommet de la montagne, auprès de la première porte extérieure du château de l'Aigle. Il était environ 3 heures de l'après-midi. Une assez grande quantité de paysans se réunissait aux alentours du manoir. Les uns étaient encore au bas de la côte, les autres gravissaient à pas lents la montée avec des chariots chargés lourdement. D'autres enfin prenaient la file et traversaient les uns après les autres le pont-levis pour aller payer leurs redevances en argent et en nature. D'instant en instant, il y avait des temps d'arrêt dans le défilé, tandis que le majordome examinait, comptait, pesait les bestiaux, l'argent, les fourrages et les provisions de toutes sortes amenées par les tenanciers. Quelques hommes d'armes, groupés près de la tête du premier pont-levis, mettaient de l'ordre dans les entrées et les sorties. Une grande et forte femme, de 35 à 40 ans, robuste comme air s'il en fut, et portant le costume des paysannes de la montagne, allait atteindre le sommet de la côte. Elle tenait à la main une longue baguette de bois blanc, armée d'un aiguillon de fer, dont elle se servait pour exciter et pour diriger deux grands bœufs noirs, aux cornes aiguës, attelés à un chariot chargé de paille, de sacs de blé et de pommes de terre. « Que le bon Dieu soit béni !» dit-elle en un patois que nous traduisons. « Nous voilà donc arrivés, mes bêtes et moi, et nous pourrons bientôt regarder en l'air, sans courir le risque de perdre la vue. « Tiens, vous voilà, vous, père Bréniquet. Bonjour, ça vous va bien ?» Ces dernières paroles s'adressaient à un vieux paysan, assis sur une grosse pierre au bord du chemin et mordant vigoureusement dans un notable morceau de pain bis. « Assez bien tout de même, la Goton. Et vous, pareillement ?» répondit le personnage interpellé par la forte femme. « Qu'est-ce que ça veut donc bien dire, ce que vous dites ? Sans vous commander, la Goton. » « Ça veut dire ce que ça dit, à savoir que cet enragé de montée n'en finissait point. Nous croyons, moi et mes bêtes, que la route s'en sauvait devant nous. Je ne vas point à l'encontre, la Goton, mais vous avez parlé de perdre la vue. » « J'en ai parlé et j'en reparle. » « Pourquoi donc ça ?»« Ah, mais dites donc, vous, Bréniquet, est-ce que vous vous imaginez que je voudrais regarder la tour de l'aiguille ?»« Et pourquoi donc pas ?»« Jésus, mon Dieu, est-ce que vous la regarderiez, vous ?» Moi ? Mais je l'ai dévisagée tout le temps de la montée, la tour de l'aiguille. Même que je me disais que si on tombait depuis là-haut, on aurait le temps, avant d'arriver en bas, de réciter le pater, le credo, le confiteor, et par-dessus le marché, de faire un acte de contrition pour mourir en état de grâce. Là, moi ! S'écria la Goton. Vous avez fait ça, père Bréniquet ? Oui, dame. Et vous n'avez rien vu ?
Rien de rien.
La Goton se signa à deux reprises avec dévotion. « Rendez-en grâce au bon Dieu, au moins, » dit-elle ensuite. «
Grâce de quoi ? De ce qu'il vous a préservé d'un grand danger ?
Quel danger ?
Si le fantôme vous avait vu, vous étiez aveuglé sur le coup. »
Le paysan lâcha le morceau de pain dans lequel il allait mordre et devint un peu pâle.
« Le fantôme ? » répéta-t-il en se levant. « Il y a donc un fantôme ?
Comment ? Vous ne savez pas ?
« Non, ah, mais non, je ne sais pas. »«
Eh bien oui, il y a un fantôme, » reprit la Goton, « tout blanc et haut de 100 pieds. »«
Où est-il ? Que fait-il ?
Quand le voit-on ? » ?»«
Il se promène sur la plateforme de la tour. »«
Souvent ?
Presque toujours. »«
Oh mon Dieu !
C'est comme ça, père Bréniquet. »«
Le jour, depuis la vallée, il ressemble à un brouillard fait en forme humaine, comme s'il était de feu. »
Eh, c'est bien vrai, ça, la Goton,
puisque je vous le dis.
Et quand on le voit, on devient aveugle?
Positivement. Et tenez, pas plus tard que ce matin,
vous l'avez vu?
Eh non, puisque j'ai toujours mes deux yeux.
Mais j'ai vu quelqu'un qui l'a vu.
Et qui est devenu aveugle?
Comme si on lui avait tiré un coup de mousquet dans la figure.
Le paysan se prit à trembler.
Et où donc que ça s'est passé, ce malheur-là?
Fit-il ensuite d'une voix chevrotante.
« Pas loin du Saut Gérard.
J'allais chercher mes chèvres. J'étais sur la hauteur. Un jeune homme passait dans le fond du val. Un beau jeune homme, ma foi, habillé comme un gentilhomme. Il était avec une vieille mendiante qui ressemblait à Maggie la sorcière.
Et de fait, ça pouvait bien être elle.
Tout d'un coup, le voilà qui se met à monter la côte en courant comme un fou et à regarder la tour de l'aiguille.
Et le fantôme y était ?
Bien sûr que oui, puisque le jeune homme poussa un cri, mit ses deux mains sur ses yeux et roula du haut en bas de la montagne comme une balle.
Il était aveugle ?
Des deux yeux ?
Et qu'est-ce que vous avez fait alors, la Goton ?
J'ai pris mes jambes à mon cou pour m'en sauver plus vite.
Est-ce que vous n'en auriez pas fait autant, vous, père Bréniquet ?
Assis, assis, par exemple.
Un mouvement eut lieu dans la foule des tenanciers. Le défilé, un instant interrompu, reprenait son cours. La Goton poussa ses bœufs et suivit la file, ce qui naturellement interrompit la conversation commencée. Nous avons cru devoir mettre cette conversation sous les yeux de nos lecteurs parce qu'elle était un écho fidèle des bruits absurdes et dépourvus de toute vraisemblance, mais fortement enracinés dans les esprits, qui couraient sur le château de l'Aigle parmi les populations montagnardes.
Le médecin des pauvres, chapitre 6. Les redevances. Les paysans, en arrivant sur l'esplanade, se rangeaient de manière à former deux lignes entre lesquelles se trouvait ménagé un espace libre qui allait d'une porte à l'autre. Les chariots et les bestiaux occupaient cet espace. Le majordome se tenait debout en tête de la file, et sa physionomie solennelle, empesée, bouffie d'orgueil, indiquait clairement à quel point il était vain de ses importantes fonctions. C'était un homme d'une soixantaine d'années, gros et court, aux épaules massives, au cou de taureau. Son visage large et luisant, parsemé de rubis, dont le nombre et l'éclat dénotaient un fervent adorateur de la dive bouteille, était couronné par un front chauve qui, d'une chevelure jadis abondante, n'avait conservé que trois touffes crépues et grisonnantes. Une au sommet du crâne, les deux autres au-dessus de chaque tempe. Ses yeux, d'un gris pâle, étincelaient sous d'épais sourcils en broussaille encore très noirs. La lèvre inférieure, lipue et sensuelle, pendait sur le menton. Ce majordome avait la tête nue, et il portait une sorte de houppelande brune, difficilement assujettie sur son ventre proéminent par une cordelière de laine. Une paire de lunettes sans branches se tenait à cheval sur son nez court et rouge, dont elle serrait fortement l'extrémité. Il feuilletait un long registre renfermant les noms de tous les tenanciers avec les indications des redevances de chacun. De temps en temps, il trempait une plume ébouriffée dans une écritoire de plomb qu'un des marmitons du château avait soin de tenir à portée de sa main. De tout ce qui précède, il me semble résulter, croyons-nous, que le digne fonctionnaire était pourvu d'une physionomie tout à fait monacale et rabelaisienne, et plutôt grotesque que repoussante. Quiconque, cependant, conclurait de cette façon, après avoir lu le portrait que nous venons de tracer, se tromperait d'une façon complète. La physionomie du majordome était ridicule, cela est vrai, mais elle était en même temps terrible. Ses yeux gris avaient des regards aigus, impassibles, presque féroces. Sa lèvre pendante rappelait celle de Caracalla et de Néron. Le mufle du tigre se retrouvait vaguement parmi les lignes de sa figure. Cet homme devait trouver une joie vive à voir les larmes qu'il faisait couler. Il devait être inébranlable comme le bourreau, insensible comme la hache. Et le seigneur de l'Aigle, en le choisissant pour en faire l'instrument de ses exactions, avait bien su ce qu'il faisait. Nous allons assister pendant quelques secondes à sa manière de procéder. Il consultait son registre et il faisait l'appel des tenanciers, appel qui, durant depuis midi, touchait à sa fin. « Jean-Marie Gou, de la ferme de Charmont ?» dit-il. « Voilà !» répondit un petit homme brun dont le visage basané et taillé en lame de couteau offrait le type espagnol dans toute sa pureté. Il était suivi d'une voiture traînée par deux bœufs et derrière laquelle une vache et quatre moutons étaient attachés. Le majordome jeta un regard sur la voiture et sur les bestiaux et poursuivit en reportant les yeux sur son registre. « 5 sacs de blé, 2 de seigle, 3 d'orge, 60 livres de lard fumé, 1 jambon, 50 écus en bonne espèce sonnante et ayant cours, 1 vache de 18 mois ayant mis bas, 4 moutons d'un an en bon état, non tondus. Tout y est-il ?
Oui, messire, tout y est. Quant aux 50 écus, les voici, avec le reste. »
Et le paysan tira une à une d'une bourse de cuir les pièces d'argent et les remit au majordome, qui les fit tomber avec fracas dans une profonde escarcelle qui pendait à son côté.
« Tout y est, dis-tu, Jean-Marie Gou. Mais les sacs ont-ils le poids ? Et les moutons sont-ils gras ?
Oh, je vous en réponds.
Vous répondez toujours, vous autres.
Parbleu, ça ne vous coûte rien.
Enfin, nous allons voir. »
Le majordome fit un signe. Des valets déchargèrent aussitôt le chariot et en mirent le contenu sur l'un des plateaux d'une énorme balance destinée à cet usage. Le paysan suivait l'opération d'un regard anxieux. Les poids se trouvèrent exacts. Les moutons, visités immédiatement après,
furent reconnus bien en chair et capitonnés d'une laine longue et douce. On rechargea la voiture.
« Il paraît que la ferme est bonne, Jean-Marie Gou, » dit le majordome.
« Je ne me plains point, messire. Il faut rudement travailler, mais en travaillant, on joint les deux bouts.
Et il en reste bien encore quelque chose au bout de l'an, hein, Jean-Marie ?»«
Pas grand-chose, messire, pas grand-chose. »
« Ce n'est pas l'avis de monseigneur. Il augmente tes redevances de 10 écus, de 2 sacs de blé, de 4 mesures de pommes de terre et de 2 moutons. »
« Mais, messire, » s'écria le paysan stupéfait et consterné.
« En voilà assez, » reprit le majordome en lui coupant la parole. « C'est entendu. Sois exact l'an prochain, sinon... » Puis il ajouta d'une voix retentissante. « Jean-Marie Gou, de la ferme de Charmont, reçu. À un autre. »
Le paysan, désolé, piqua ses bœufs et entra avec son chariot dans l'intérieur du château. Le majordome consulta son registre et reprit.
Pierre-Antoine Comtet, de la Grange Faucon. 8 sacs d'avoine. 1 cochon du poids de 300. 1 bœuf de 800. 30 écus en bonne espèce sonnante et ayant cours.
Voilà, messire, répondit un vieillard à cheveux blancs dont l'échine voûtée annonçait une longue vie de travail opiniâtre.
Tout y est-il?
Tout, messire.
Les écus?
Voici.
Bien. Qu'on décharge et qu'on pèse.
Les poids furent déclarés satisfaisants. Le vieillard reçut la notification d'un surcroît de redevance. Le mot reçu fut solennellement prononcé et le chariot passa.
François Teret, de la ferme des Petites Chiettes, poursuivit le majordome. 15 sacs de blé, 4 de farine, 6 d'avoine, 3 d'orge, 5 boisseaux de pommes de terre, 1 bœuf du poids de 800, 4 moutons d'un an, en bon état non tondu, 30 poulets gras, 40 livres de beurre, 4 milliers de foin, 50 écus en bonne espèce sonnante et ayant cours.
Personne ne répondit voilà. Le majordome leva les yeux, et au lieu du fermier qui l'attendait, il vit devant lui une belle jeune fille, pâle et tremblante, essuyant ses yeux rougis avec le coin de son mouchoir de cotonnade.
« Ah ça ? » demanda-t-il brutalement. « Qui es-tu, toi ?»«
Je suis la fille de François Teret, »
balbutia la pauvre enfant.
« Où est ton père ?»«
Il est chez nous. »«
Pourquoi n'est-il pas venu ?»«
Il n'a pas pu. »«
Comment, comment ? » s'écria le majordome en se raidissant sur ses courtes jambes comme un coq en colère qui se dresse sur ses ergots. « Il n'a pas pu. Qu'est-ce que cela signifie? Et nos redevances? Où sont nos redevances ?»
La jeune fille ne répondit pas, et elle éclata en sanglots.
« Voyons !» continua le petit homme en frappant du pied. « Se raille-t-on de nous par hasard? François Teret est un de nos plus riches fermiers. Les redevances, où sont les redevances ?»«
Hélas, messire, les gris sont venus. »«
Les gris sont venus. Eh bien, après ?»
Ils ont tout pillé, tout saccagé. Ils ont brûlé les granges et les magasins à tourage. Ils ont emmené les bœufs, les moutons. Ils ont tout emporté.
Et ton père les a laissés faire comme ça, tranquillement, sans se défendre.
Oh, il s'est défendu, messire. Il s'est bien battu. Il s'est battu comme un soldat. Un de mes frères a été blessé dangereusement. Mon père a reçu un coup d'épée dans la cuisse.
Tant pis pour lui. Et les redevances ?
« Puisqu'il n'y a plus rien, messire, puisque tout a été emporté ou brûlé. »«
Même les 50 écus ?»«
Hélas, messire, nous comptions vendre des bœufs et des moutons pour faire l'argent. »«
Et ton père croit que les choses vont se passer comme ça ?»«
Il espère que monseigneur aura pitié de lui. Il est dans son lit. Il est bien malade de sa blessure. »«
Eh bien, dis-lui de ma part à ton père que si dans 8 jours les redevances ne sont pas intégralement payées, c'est dans les prisons du château qu'il viendra se guérir.
« Grâce, messire, au nom du ciel !» murmura la jeune fille au milieu de ses sanglots. « Ayez pitié de nous !»«
Tu as entendu ? Dans 8 jours !»«
Mais, Seigneur, mon Dieu, comment voulez-vous que nous puissions faire ?»«
Cela ne me regarde pas. La paix. Dans 8 jours, tu comprends ? À un autre !»
en voyant s'éloigner la jeune fille qui, dans son désespoir, s'arrachait les cheveux et se meurtrissait le visage, les tenanciers, répandus sur l'esplanade, ne purent contenir un murmure d'indignation.
« Qu'est-ce que j'entends ? » s'écria le majordome exaspéré en frappant du plat de sa main sur son registre, en plantant derrière son oreille rouge sa plume ébouriffée et en promenant autour de lui le regard menaçant de ses yeux pâles.
« Qu'est-ce que j'entends ?
Hors ça, maintenant, faut-il que nos hommes d'armes vous chatouillent les côtes, pour vous bien prouver que vous n'avez point ici droit d'insolence ?
Que l'un de vous murmure ou réplique, et je vous préviens que monseigneur doublera les taxes. »
Cette menace produisit un effet immédiat. Le calme se rétablit comme par enchantement. On eût entendu voler une mouche, tant le silence devint profond d'une seconde à l'autre. Le majordome reprit son appel.
« La veuve Coton Clément, de la ferme d'Ilet, dit-il. 6 sacs de blé, 4 boisseaux de pommes de terre, 40 écus en espèces sonnantes, 1 bœuf du poids de 800, 1 fromage du poids de 30 livres.
« Voilà, voilà, messire !» répondit en s'avançant la grande et robuste gaillarde que nous connaissons déjà, pour lui avoir entendu raconter au vieux Bréniquet la légende du fantôme blanc de la tour de l'aiguille.
À l'aspect de la forte femme, le visage du majordome s'adoucit et prit une expression presque bienveillante.
« Ah ah, ma commère » fit-il en ébouriffant ses 3 mèches d'une façon coquette. « Vous voilà donc !»«
Comme vous voyez, messire, pour vous servir !»
répliqua la Goton en ébauchant une révérence.
« Et nos petites redevances, ma commère ?»«
Je les amène. »«
Sommes-nous au complet ?»«
Ma foi, il manque si peu de choses que ce n'est vraiment pas la peine d'en parler. »«
Parlons-en, cependant. Qu'est-ce qui nous manque ?»«
Le fromage. »«
Ah ben ? Et comment cela se fait-il ? » ?»«
Ce n'est pas ma faute, allez. Vous savez, on porte son lait à la fromagerie, tout un chacun dans le village. » Et on a un fromage quand vient son tour.
Eh bien, on avait jeté un sort à mes vaches. Elles étaient toutes taries.
Mais notre monsieur le curé leur a dit des paroles, avec de l'eau bénite.
Et les voilà redevenues bonnes au lait.
Donnez-moi un peu de temps.
Combien vous faut-il ?
8 jours.
Je vous en donne 15.
Merci bien, messire.
Et la première fois que je descendrai à Ilet, j'irai chez vous dire un petit bonjour, ma commère.
Ça me fera honneur et plaisir.
La veuve Goton Clément, cria le majordome, reçu, à un autre. Et il appela. Jacques Rémy Garbaz, de Ménétrux en Joue. 3 milliers de foin. 75 écus. 4 sacs d'orge, 3 sacs de blé.
Aucune réponse ne fut faite à cet appel.
Comment ? Dit le majordome d'un air étonné. Comment ? Garbaz n'est pas là ?
Il va arriver dans un instant, messire, dit un paysan en s'approchant.
Pourquoi est-il en retard ?
Une des roues de son chariot s'est cassée près du seau Girard. Il la raccommode et il va monter.
C'est bien, nous recevrons ses redevances en dernier.
Et le majordome fit continuer le défilé des tenanciers. Nous le laisserons s'acquitter de cette besogne et nous allons pénétrer dans la cour intérieure du château. Les voitures, après avoir quitté l'esplanade, arrivaient l'une après l'autre devant le perron, haut de plusieurs marches, qui conduisait à la porte d'honneur du principal corps de logis. Antide de Montaigu se tenait debout sur la plus haute marche de ce perron, et chacun des tenanciers s'arrêtait pendant 1 ou 2 minutes pour le saluer et pour lui laisser le temps de jeter le coup d'œil du maître sur les redevances. Les voitures prenaient ensuite à droite, entraient dans le chemin de ronde, et ne s'arrêtait que dans la cour de la citerne, dont nous avons un peu plus haut expliqué la position. Là, elles étaient rapidement déchargées par des valets qui transportaient les provisions dans les greniers et dans les magasins. Les chariots reprenaient ensuite à vide le chemin par lequel ils étaient venus, traversaient l'esplanade et sortaient du château. Au moment où nous rejoignions le seigneur de l'Aigle, il commençait à se faire tard. Le crépuscule succédait au jour, et le défilé des voitures avait cessé depuis un instant.
« Que veut dire ceci ?» demanda Antide de Montaigu à l'un de ses écuyers qui se trouvait à côté de lui. « Si tout est fini, pourquoi les hommes d'armes ne rentrent-ils point ? Et pourquoi ne ferme-t-on pas les portes ?»
L'écuyer s'empressa d'aller aux informations, et au bout de quelques secondes, il revint accompagné du majordome.
« Monseigneur, » dit ce dernier d'une voix humble et d'un air profondément respectueux, « nous attendons encore quelqu'un. »
« Et quel est l'insolent drôle qui se permet de se faire attendre ?»«
Monseigneur, c'est Rémi Garbas, de Ménétrux en Joue. » »«
Le père du trompette de l'accusant ?»«
Lui-même, monseigneur.
Il a d'ailleurs une excuse à alléguer. »«
Laquelle ?»« Il lui est arrivé un accident. Une des roues de son chariot s'est brisée près du Saut Girard. » »«
Tant pis pour lui. Il devait prendre ses précautions. »«
Que faut-il faire, monseigneur ?»
« Faire rentrer le poste et fermer les portes. »«
Et Garbas, monseigneur ?»«
Il reviendra demain. »
Le majordome allait s'éloigner pour exécuter les ordres de son maître, mais en ce moment précis, on entendit une voix vibrante et bien timbrée chanter sur l'esplanade le premier couplet d'une chanson que les montagnards de l'Accuson avaient apprise pendant leurs excursions dans le bas-pays. Cette chanson était originaire de Bresse, et les hommes des corps francs ne la chantait que pour se moquer des Bressans, pour lesquels il professait la haine et le mépris les plus profonds. Voici ce que disait la voix. Quand le printemps revient sur terre, quand les pommiers sont en fleurs, quand les champs et la bruyère sont pleins de bonnes odeurs, les beaux gars et les fillettes, les sages et les coquettes ne pensent qu'aux amourettes.
« Messire majordome !» cria de loin un valet. « Voici Garbas, de Ménétrux en Joue.
« C'est bien, j'y vais !»
Et le majordome se mit en devoir de se diriger vers l'esplanade.